En fait, Radio Roulotte, c'est une... On va faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Roulotte, jour 4. Bonjour Clarita.
Bonjour Déborah. Ici, on se retrouve en plein air dans la cour de l'école communale de Florifou. Et c'est un plaisir parce que, voilà, pour moi, c'est la première fois que je fais de la radio en plein air. Donc, je trouve que c'est un grand luxe.
Oui, c'est un grand luxe, surtout que le temps est clément. Et ce matin, on est parti de soi. Alors, Clarita, peut-être juste un petit mot sur la nuit, parce que Clarita a passé la nuit dans la roulotte. Et qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de la région cette nuit?
Alors, il y a eu un déluge apocalyptique et on en est sorti vivant. On a eu un peu peur, mais c'était, ma foi, une aventure. Et comme toute aventure, même quand tu as eu peur, après, ça fait toujours du bien de le raconter. Donc, de la pluie, de l'orage, des grelons, beaucoup de peur, mais pas beaucoup de mal. Donc, on est vivant, on était content de se réveiller ce matin. Très tôt sur la brocante de soie, une très jolie fête, vraiment des bons souvenirs à soie hier, voilà. Et très contente d'être arrivée aujourd'hui à Florifou, on est dimanche, je pense que tout le monde est serein, c'est du moins l'impression que j'ai. Et ben voilà, je suis contente de faire partie de la dernière émission de Radio Roulotte pour cette année en tout cas.
Voilà, et puis, donc Clarita vous l'a dit, on est à Florifou. Il y a pas mal de monde déjà qui nous a rejoints, puisque c'est la dernière. Alors, on s'était dit un petit peu festif aussi, mais surtout parler de Florifou. Mais tout d'abord, parole à Yves.
Un cheval de trait, c'est un cheval lourd. Je glousse. Oui, mais je sens bien, j'entends bien que je glousse. Donc. Je glousse.
Yves qui glousse et on vous parlera de Yves Olivier un peu plus tard dans cette émission. Aujourd'hui, Florifou, donc on est avec évidemment des florifoliens, puisque les florifoliens, c'est les habitants de Florifou, florifoliens, florifoliennes. On a Vincent Pricréau et Frédéric Depau. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes nés tous les deux à Florifou?
Personnellement, non. Je suis du Brabant wallon, mais voilà, j'ai émigré par ici. J'ai fait mes études à Floref et puis voilà, je suis resté dans la région.
Un florifolien d'adoption.
D'adoption, oui.
Et moi, je suis né tout près de Philippeville.
Mais tu es venu très tôt dans la région.
Oui, depuis mes 3 ans, je suis dans Florifou.
Et vous, ça fait combien de temps alors?
Alors moi, j'ai fait mes études à Floref, j'ai commencé
et quoi,
en
dans
78, oui, à l'abbaye, oui. Ils ne font pas que des séminaristes, hein.
Non, on sait bien.
Voilà, et donc je suis à Florifou depuis 1989.
D'accord. Et alors, si on parle de Florifou, comment est-ce que vous voyez-vous déjà l'évolution depuis le temps que vous y êtes de Florifou?
Florifou a beaucoup évolué, surtout au niveau population. Donc c'était un tout petit village et quand on voit la courbe démographique, elle est très, très abrupte. D'ailleurs, l'école dans laquelle ici nous nous trouvons peut en témoigner. Elle a dû être réaménagée parce que la population scolaire a fortement augmenté. Donc il en est de même pour la population.
Ils vont même offrir une classe, on m'a dit.
Je ne sais pas.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc toi-même, Frédéric, quelle est l'évolution que tu as vue de Florifou?
Rien de bien spécifique. Moi, je suis toujours bien plu dans Florifou, à part que, comme Vincent a dit, ça s'est vraiment bien grandi, quoi.
Voilà, donc une population et un village qui s'agrandit. Et là, le rôle d'un groupe de personnes qui ont décidé finalement de rassembler les florifoliens à travers justement, est-ce qu'on peut dire un projet, un collectif, une association qui s'appelle les florifoliens avec un trait d'union.
Bah oui, un trait d'union, vous avez tout dit, hein, vous avez compris le principe en fait.
Voilà, j'aurais bien aimé que vous m'en parliez plus amplement.
Donc les florifoliens sont nés d'une initiative ici d'un parent d'élève. On était en fait une dizaine de parents à avoir nos enfants ici à l'école. Et on faisait partie du comité de parents, donc on était là pour les fancy fairs, les fêtes, etc. Et puis bon, petit à petit on est parti puisque les enfants grandissent. Et en 2008, l'un de nous s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on organise quelque chose à Florifou pour les gens, donc faire des animations, des événements, etc. Et bon, comme le noyau, je veux dire, en soi était constitué, on s'est très vite rassemblés et on a constitué cette ASBL qui a maintenant 5 ans, presque 6.
Voilà, alors quand on n'est pas de Florifou à la base et qu'on arrive avec l'idée de rassembler les gens, on est bien accueilli avec ce projet-là. Les gens sont contents. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ces initiatives de rassemblement, finalement, de faire en sorte que les gens se connaissent?
C'est généralement bien accueilli. Maintenant, bon, il faut énormément informer les gens. Donc, par des toutes boîtes, par maintenant via Internet, des mails, etc., pour que les gens se déplacent quand même et viennent à différentes activités. Il y a des activités maintenant qui sont devenues récurrentes et qui attirent de plus en plus de monde. Mais évidemment, on essaye d'en créer de nouvelles et d'attirer un public de plus en plus vaste, notamment les plus jeunes, mais également les plus anciens. Et bon, c'est pas toujours facile parce qu'il faut soit cibler très fort le public, soit avoir quelque chose de général, mais bon, il faut que ça plaise à la majorité des gens. Donc voilà, il y a des événements qui marchent très bien, il y en a d'autres qui doivent encore se développer, auxquels on doit réfléchir pour trouver une formule plus adéquate. Mais ça prend forme.
Frédéric, tu nous parlais tout à l'heure, parce que vous faites des activités pour la Saint-Nicolas, pour Halloween, bon voilà, un public conquis, vous prêchez des convaincus, c'est pas compliqué, les enfants, Saint-Nicolas, Halloween, et en dehors de ce genre d'activité, qu'est-ce que vous proposez d'autre?
Des marches gourmandes aussi, des activités paintball aussi, et on a fait une activité il y a quelques mois d'ici, c'était du Segway, donc la descente de la citadelle et visite du vieux Namur en Segway.
Segway, c'est quoi? Segway, c'est quoi?
C'est des véhicules électriques où on s'avance ou on recule avec son poids.
D'accord, en fait, je viens de comprendre.
On est
debout, voilà. Sur deux roues, sur une espèce de plateforme. Il y a deux roues sur les côtés. Et voilà, oui, on avance avec son poids. Oui. Je vois très bien de quoi il s'agit. Il paraît qu'en mode un peu tout-terrain, ça peut être vraiment intéressant, agréable.
Oui. Et même en mode classique, je veux dire, en 5 minutes, on a appris. Et c'est vraiment très sympa pour visiter une ville, des choses comme ça. Et les gens, généralement, accueillent ça vraiment très bien, avec curiosité. Toujours le sourire aux lèvres quand on croise des gens. Ça, c'est très bien comme mode de transport. C'est écologique en plus. Donc,
c'est silencieux. Ah oui, c'est écologique. Parfait, oui. Ah, je ne savais pas. Je pensais
c'est électrique.
Ah oui, ok, d'accord. C'est électrique.
Donc, c'est écologique électrique.
Mais il faut quand même mettre un casque.
Oui.
Ah ben, je ne sais pas comment ils se baladent en ville. Enfin bon, on ne va pas nous faire une émission sur le Segway non plus. Et alors, petite question quand même, parce que quand on se balade dans Florifou, on se rend compte qu'il y a énormément de nouvelles bâtisses, de nouveaux bâtiments, de privés, et en plus encore énormément de terrains à bâtir qui sont en vente. Par exemple autour du Champion, donc, qui longe la Nationale. Alors, comment ça se fait qu'il y a tellement de terrains à bâtir à Florifou?
C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse.
Mais est-ce que ce sont des privés ou est-ce que c'est des terrains communaux qui sont mis en vente?
À mon avis, ce sont des terrains privés. Hein. Donc, avant, il y avait énormément de terrains agricoles. Et puis, petit à petit, le plan d'affectation a sans doute été modifié. Et beaucoup de maisons sont venues s'installer. De ce fait, il y a beaucoup de nouveaux bâtiments, en effet.
Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dès qu'un terrain est mis en vente, ce terrain a au départ une affectation, comme vous disiez. Donc, soit c'est un terrain agricole, soit c'est un pré, donc plutôt pour le pâturage, soit c'est un terrain à bâtir, en gros, où il y a encore tout ce qui est industriel et tout ça. Et donc, c'est vrai que dès que quelqu'un veut mettre son terrain en vente, il va chercher ce qui est le plus rentable. Et pour l'instant, c'est la construction. Ça se passe beaucoup en Wallonie. Qui sont ces gens qui vont venir acheter ces nouveaux bâtiments ou qui vont acheter ces terrains à bâtir?
Qui sont ces futurs nouveaux habitants?
Est-ce que ce sont des néo-ruraux ou des ruraux déjà accomplis?
Je ne sais pas. À mon avis, ce sont souvent des néo-ruraux. Donc, ce sont des gens qui travaillent dans les grandes villes et puis qui viennent s'installer ici, vu qu'ils sont un petit peu à l'écart et qui profitent de la campagne, en fait. Mais oui. Je n'en sais pas plus. Il faudra aller sonder les rues de Florifou et voir un peu d'où viennent tous ces gens.
Et au niveau des projets futurs, on parlait encore tout à l'heure en antenne avec Frédéric du fait qu'il va y avoir des nouveaux complexes, des nouvelles résidences, d'appartements, de gens. Donc ça va vraiment s'agrandir, la population locale va vraiment augmenter. Donc là, il y a des idées aussi qui se projettent par rapport à des nouvelles activités pour inclure un peu ces personnes qui vont arriver à Florifou. Que personne ne connaît et eux ne connaissent rien non plus. Donc comment est-ce qu'on démarre ça? Quelles idées est-ce qu'on a? Sur quelle base est-ce qu'on part?
Disons qu'un grand point, je veux dire, pour faire venir des gens, ce sont les enfants. Donc tout ce qui est activité enfant, ça va bien marcher. Donc on a parlé d'Halloween, on a parlé de Saint-Nicolas, on a une chasse aux œufs pour Pâques, etc., où on fait une espèce de chasse au trésor. Et c'est ce qu'on a fait cette année en essayant d'inclure la famille. Donc il y avait une chasse au trésor avec des questions pour les petits, mais également pour les parents, en allant un petit peu à la découverte de Florifou. Et bon, par ce biais-là, on parvient à faire venir un peu toute la famille. Et voilà, c'est une des manières un peu d'accrocher les gens. Maintenant, bon, il faut qu'ils suivent. Bon, une fois qu'on connaît un peu les gens, il faut discuter avec eux et voir quels sont un peu leurs centres d'intérêt et voir ce qu'eux peuvent aussi proposer, parce que... Oui, on en veut une, il y a des glaces qui arrivent.
Il y a des glaces à Florifou.
Mais voilà, c'est la SBL organise des choses, mais bon, ce qui nous intéresse aussi, c'est que les gens de Florifou viennent aussi avec leurs propres idées, nous rejoignent et disent, voilà, tiens, moi j'aimerais bien organiser cela. Et bon, nous, on se met à leur disposition pour, par exemple, la logistique ou des choses comme ça. Mais ils peuvent venir avec leurs propres idées et leurs propres projets.
Et ce sont des activités gratuites ou les gens... Ça dépend peut-être du type d'activité.
Ça dépend du type d'activité. Bon, le Segway, ce genre de choses-là, on ne peut pas le faire. Le paintball non plus. Maintenant, bon, on fait des soupers aussi. Bon, ce n'est pas généralement pas très cher.
Ce sont des participations aux frais.
Ce sont des participations aux frais. Pour tout ce qui est Halloween, Saint-Nicolas, généralement, on est sponsorisé. Donc, c'est gratuit pour les enfants. Et bon, il y a les activités comme les soupers qui nous permettent d'avoir un peu de fonds et qui nous permettent alors, par exemple, pour une chasse aux œufs au mois d'avril, à Pâques, d'avoir tout ce qu'il nous faut gratuitement pour les enfants.
Alors, question, est-ce que vous avez des grandes fêtes comme on a pu voir à soi hier, avec un défilé, avec une thématique, quelque chose qui rassemble, avec un gros barbecue, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une fête qui peut rassembler le village?
Non, ça, on a pas vraiment. Maintenant, on a un gros problème à Florifou. On a énormément de terrain à bâtir, mais par exemple, on n'a pas de place de l'église. Donc, on manque un peu d'espace pour ne fût-ce que mettre des manèges ou des choses comme ça. Donc, on doit... Ou un chapiteau. Donc on doit un peu composer avec l'espace disponible et faire des activités en fonction de cela.
Et l'histoire du grand feu alors?
Ah, le grand feu, ça c'est autre chose. Ça c'est un petit peu à l'écart de Florifou. Il n'y a pas qu'à Florifou d'ailleurs qu'on fait un grand feu. Vous avez été à Buzet. Donc là aussi, ils ont un très grand feu depuis quelques années. Mais bon, c'est aussi un événement récurrent et qui marche bien.
Voilà, mais donc c'est quand même quelque chose qui rassemble le village entier. Mmh. Oui. Alors expliquez-nous un peu l'histoire de cette fête du Grand Feu.
Le Grand Feu, le but du Grand Feu, c'est tout d'abord pour nous florifoliens de faire venir du monde justement pour faire connaître la SBL, pour avoir des nouveaux membres, aussi ceux qui veulent devenir membres. Mais le Grand Feu, c'est... L'histoire, c'est, je crois, c'est pour éloigner l'hiver. Mm-hmm.
Donc voilà, on fait un bonhomme hiver. D'abord, on fait un énorme bûcher avec généralement du bois que les gens ont chez eux et qui déposent. Et on fait un bonhomme hiver que l'on met sur un espèce de brancard et que les enfants transportent à travers tout le village. Et puis on met le bonhomme hiver sur le bûcher, et puis les enfants, ou bien des jeunes, ou bien dans certaines entités, ce sont les derniers mariés de l'année, par exemple, qui font ça, ils mettent le feu au bûcher. Et voilà, c'est une manière de chasser l'hiver en brûlant bonhomme hiver.
Mais c'est une vieille tradition, ça,
c'est
non?
C'est une vieille tradition, oui, qui voilà. Remonte... Bon, le grand feu le plus connu, c'est celui de Bourges, qui remonte, à mon avis, au XVIe siècle, je crois. Donc voilà, c'est une tradition.
Et à Florifou, c'est pas depuis quand ça date?
Non, personnellement, je ne sais pas. Mais il y a eu des grands feux, puis il y a eu des interruptions. Et puis nous, on a repris depuis 4-5 ans. Oui.
C'est important quand même ça, d'avoir une certaine forme de folklore récurrent
à fait,
et puis à base historique dans un village.
Mm-hmm. Mais le grand feu, le grand problème.
Le grand feu, le grand problème.
Voilà.
Oui. Si vous faisiez un petit feu, il y aurait un petit problème.
Oui, oui. Parfois, il y a des grands problèmes parce qu'un jour, on a dû faire un grand arrosage pour le grand feu, mais ça, c'est autre chose. Le grand problème, c'est qu'il faut trouver des terrains. Comme vous l'avez dit, ici à Florifou, on bâtit énormément. Donc avant, on parvenait à le faire au milieu du village. Maintenant, il faut trouver un terrain un petit peu en dehors parce que sinon, les voisins ont un petit peu la crainte de voir leur toit brûler. À cette occasion.
Mais il y a quand même un truc bizarre à Florifou, c'est que Florifou, on a l'impression que c'est tout petit, puis en fait c'est assez étendu, mais il y a une nationale qui coupe le village en deux.
Oui.
Comme beaucoup de villages, Buzet pareil, je
pense. C'est ça, il y a la nationale qui coupe le village en deux, c'est quand même assez...
Oui, c'est une grosse balafre dans le village, je trouve.
Ça s'est passé quand, ça, cette histoire?
Aucune idée.
Oh, ça doit être dans les années 60, 70... Oui. Lorsqu'on a réaménagé le réseau routier ici. Ouais.
Est-ce que du coup, que la nationale passe vraiment quasi en plein milieu, est-ce que ça crée deux sortes de Florifou?
Non, ça ne crée pas deux sortes
gauche,
de Florifou,
mais
je crois que justement, lorsqu'on organise des choses, il faut pouvoir penser à ça et pouvoir organiser des choses d'un côté et de l'autre. Quoi. Donc pas toujours faire tout de la même, du même côté.
Oui, parce que nous, on a eu le problème, c'est que quand on a fait le tour de Florifou avec la roulotte et les chevaux, on n'a pas traversé la nationale parce que c'est un peu dangereux avec les chevaux. Mmh. Et donc, on est resté que de ce côté-ci et on n'est pas passé de l'autre côté. Quoi. Donc, on s'excuse déjà
auprès de nos auditeurs. On est obligé de revenir l'année prochaine.
Et on fera l'autre côté de Florifou, si la roulotte tient.
Oui, donc voilà, c'est vraiment pris en compte aussi le fait que, entre guillemets, géographiquement, le village est coupé en deux par une route. Mmh.
Très belge, hein, tout ça, finalement. Alors, aussi, on nous a parlé d'une histoire d'un grand chêne.
Oui, il y avait un vieux chêne à Florifou, ici, pas très loin, qui avait entre 200 et 300 ans. C'était un des arbres remarquables de Wallonie et qui, malheureusement, est mort de sa belle mort il y a maintenant 4-5 ans. Donc, l'an dernier, on l'a retiré, on en a mis un nouveau. Donc, il y a un nouveau vieux chêne. Mais bon, il faudra le temps qu'il s'enracine aussi. Et bon, le vieux chêne, c'était vraiment un point de repère pour les grands et petits. Et d'ailleurs, si je me permets une petite anecdote, le jour où on l'a coupé, on a encore retrouvé entre ses racines une petite boîte à cigares avec des dessins d'enfants dedans.
Oh, c'est génial,
donc ça restait un plein poulain comme ça.
Voilà. Ouais. Il restait un petit trésor au pied du vieux chêne.
Mais une histoire autour de ce vieux chêne.
Est-ce qu'on n'a pas moulé le béton?
Non, il y a une vieille histoire avec ce chêne.
Il a été bétonné pour pouvoir le préserver plus longtemps. Quoi.
Oui. Donc il avait une partie de son pourtour, une fosse écorce en béton avec des briques à l'intérieur.
D'accord, il a été moulé.
Ah oui, carrément, avec des briques...
Parce que sinon, on pouvait passer à travers. Les enfants, on m'a raconté ça, les enfants jouaient à travers. Et voilà.
D'accord. Et ce que tu voulais dire, je pense, c'était par rapport aux chevaux de Napoléon.
Oui, on a entendu ça.
Une histoire avec les chevaux de Napoléon. Quand Napoléon arrivait, il accrochait ses chevaux à ce chêne ou quelque chose comme ça. Il a une valeur historique. Ouais. Bref.
C'est la légende. Alors, les légendes urbaines, ça fonctionne aussi à Florifou.
Très bien. Je propose alors une petite pause musicale et ensuite on retrouvera Marie et Dimitri au micro. Petite pause musicale alors que va nous annoncer Frédéric, puisque tu nous as mis sur la piste justement de ce groupe qui s'appelle Tichapia.
Tichapia, oui. En fait, c'est un groupe de la province de Floref, qui provient de Floref, mais qui n'existe plus malheureusement maintenant.
Comme et
oui, tout à fait. Mais le titre qui va passer, c'est Vive la Wallonie.
boire une lèvre. On va à Rochefort pour boire une Rochefort. On va à Floreffe pour boire une Floreffe. Vive la Wallonie. Et quand on va à Gondine, on boit avec nos copines. À quel beau pays la Wallonie. Une blanche de la mur, on va à Orval pour boire un Orval, on va dans les Fagnes pour boire une super des Fagnes. Vive la Wallonie. Et quand on se rend à Lonzé, on boit des trucs alcoolisés. À quel beau pays la Wallonie. On va à Achouffre pour boire une Achouffre, on va à Purnaud pour boire une Purnaud, on se rend à Bêche pour boire une Bêchoise. Vive la Wallonie. Et quand on est bien entamé, on reprend la route de Ciné. À quel beau pays la Wallonie.
Voilà, à l'instant, les titres. Chapias, et c'était vraiment bien. C'est dommage que ça n'existe plus. Bon, on ne les verra jamais en concert, c'est triste, mais c'est comme ça.
C'est comme les Doors.
Voilà, c'est comme les Doors. Je ne ferai pas de commentaires sur les Doors. sinon, je pense que je vais me faire des ennemis. Et donc, voilà, je profite donc pour remercier Frédéric et Vincent qui étaient avec nous au micro à l'instant et pour aussi communiquer à nos auditeurs le site web des Florifoliens qui est florifo-lien.be où vous pouvez retrouver donc toutes les activités proposées par la SBL.
Avec deux R.
Oui, avec deux R. Florifolien. Folien, donc avec deux R. Voilà, au cas où. Et voilà. Et là, on accueille à notre table et au micro Marie et Dimitri. Alors, Marie fait partie de l'opération pour le développement durable, l'ODR. Et Dimitri...
Rural.
Oh là là. Tant j'avais dit que je ferais... Et Dimitri, qui, lui, fait partie de la commission locale pour le développement rural.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc, juste là ce qu'on a dit
on va peut-être rectifier en deux, trois mots.
Donc, enfin, R, c'était rural, ça.
Oui, c'est rural.
En tout cas, il y a des éléments qui sont corrects, d'autres un peu moins. Donc, nous sommes de la Fondation Rurale de Wallonie et on travaille avec la commune de Floreffe dans le cadre de son opération de développement rural. Et dans ce cadre-là, il y a une commission qui s'est mise en place avec des citoyens actifs au niveau de la commune et c'est la Commission Locale de Développement Rural. Voilà un petit peu le...
Voilà, et on travaille les tous acronymes. Les deux sur l'opération en général.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien, par exemple? C'est quoi votre travail au quotidien? Dimitri,
il parle à la radio?
Notamment.
Il parle à la radio.
Ça, c'est plutôt le week-end, mais c'est la semaine, je fais d'autres choses. Donc, en fait, la commune s'est lancée dans une réflexion à long terme où l'idée, c'est de partir vraiment des potentialités, des enjeux de la commune, des points forts, des points faibles. Et avec les citoyens, d'identifier quels seraient les projets à mettre en place dans les années à venir pour développer la commune de manière générale, donc un peu sur tous les points qu'on peut imaginer.
Mais justement, de plusieurs exemples, parce que...
Mais donc à Floreffe, par exemple, ce qui semble important comme direction à prendre, c'est le tourisme. Parce que pour l'instant, il y a certains efforts qui sont faits au niveau touristique, mais il y a peut-être d'autres projets qui pourraient être mis en œuvre. Et donc, nous, on a mené des consultations dans les différents villages. Et c'est vrai que beaucoup de Floreffois ou de Jean Buzet ou de Soif, enfin de un peu de tous les coins, ont mis en avant que le tourisme est vraiment un enjeu majeur de la commune, quelque chose qui, dans d'autres communes, ce n'est pas le cas. Ici, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, ça leur semble important de développer des projets à ce niveau-là.
Mais quand on dit développement rural, on pense aussi quand même justement à tout ce qui est agriculture ou aménagement du territoire. Est-ce que là-dedans, vous agissez également?
Oui, c'est comme Dimitri l'expliquait, c'est toutes les sphères de la vie des Floreffois, y compris l'agriculture, y compris l'aménagement du territoire. Mais donc c'est sûr que quand le programme se met en place, il y a des enjeux particuliers qui ressortent en fonction de ce que les gens ont dit, en fonction des potentialités de la commune, en fonction de ses ressources. Et donc, parfois, l'accent peut être mis plus sur un sujet que sur un autre. Ici, dans ce cas-ci, on n'est pas encore au stade où on sait exactement à 100% quels enjeux vont être développés en particulier, mais on pourrait imaginer mettre en place une action avec les agriculteurs pour les rapprocher des fleurs et foies, par exemple. Ça c'est un projet qui peut être mis en place. Mais les projets en tant que tels ne sont pas encore construits à l'heure actuelle. C'est l'élaboration.
Pourquoi c'est tôt ?
On est en élaboration.
D'accord. Donc ça a commencé quand
Il y a environ un an et demi, deux ans, la commune a dit « je vais me lancer dans ce programme-là ». Et donc, une fois qu'on se lance, bien, il faut construire le programme, consulter les habitants, imaginer un peu les enjeux. Et sur base de ça, bien, alors on va se dire ben, « voilà, on va dans cette direction-là, on va mettre en œuvre tel et tel projet ». Tout ça est présenté alors, au niveau de la région wallonne, au gouvernement. Et alors, on peut avoir des subventions plus intéressantes. C'est aussi un peu la carotte pour que les communes se lancent dans ce genre de programme.
Alors au niveau de Florifou par exemple, élaboration d'approche, ouais voilà.
Mais au niveau de Florifou, bah, je pense que les intervenants juste avant l'ont dit, un enjeu c'est de fait cette coupure au milieu du village. Comment est-ce qu'on peut aussi garder du lien et même ça c'est général, je dirais à tous les villages, c'est maintenir malgré tout le lien dans les villages parce que c'est vrai que il y a 20 ans, il y a 30 ans, le village, bah, il vivait un peu sur lui-même, c'était un lieu où tout le monde se connaissait. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent à l'extérieur en journée, le soir ils rentrent, on se connaît moins bien, mais on a quand même envie de plus en plus, malgré tout, de connaître son voisin, de faire des choses au niveau local. Et ça, c'est vraiment un enjeu très fort qui ressort, je dirais, mais de manière générale à Floref.
D'accord, donc en fait, oui, et vous travaillez donc sur vraiment sur le concret et sur travailler avec les habitants et de manière assez... comment dire, petite, à petite échelle, ou est-ce que c'est arrivé de vouloir toucher, je sais pas, plusieurs communes à la fois, faire des gros projets, je sais pas un peu à quelle échelle est-ce que vous travaillez ?
Ici, vraiment, l'idée, c'est de travailler à l'échelle de la commune. Donc, vraiment, c'est la commune qui se lance dans le projet. Nous, on vient vraiment pour les assister, les accompagner. Et donc, on commence par une consultation de toute la population. On est passé dans tous les villages, on a fait des réunions dans toutes les salles de village, en demandant aux gens, bah, tiens, quelle est votre perception de la commune ? Qu'est-ce qui vous semble important ? Quels sont les projets qui seraient intéressants à mettre en œuvre ?
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous intéresserait ?
Tout n'est pas possible, donc c'est aussi important qu'on se rende bien compte que bah, dans quelles contraintes on est aussi. Mais enfin, c'est important de vraiment d'ouvrir le champ et de se dire, bah, on fait fi un petit peu des contraintes et on se laisse un peu rêver. Et bon, après, sur base de toutes les idées, on va essayer aussi, et des possibles, on va essayer de construire quelque chose qui tient un petit peu la route aussi, quoi.
Et la réaction alors des gens, justement, quand vous êtes comme ça concrètement devant un public local, qu'est-ce qu'on vous répond qu'est-ce qu'ils demandent les gens, justement?
Ils demandent du lien, ils demandent de la vie de quartier, ils demandent de la vie associative, ils demandent de pouvoir se rencontrer, donc ils demandent des lieux pour se rencontrer. Des locaux pour mettre en place pour faire vivre leurs associations. Ils demandent que leurs enfants continuent à avoir des écoles qui fonctionnent bien. Ils demandent que les sentiers de la commune soient toujours praticables pour pouvoir se promener. Ils demandent plein de choses, quoi. Ils demandent...
Et c'est toujours c'est des demandes pour le collectif ou parfois on a affaire à des intérêts individuels ?
Notre boulot à la base, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le collectif qui ressorte. On anime dans ce sens-là, mais c'est évident que quand les gens viennent exprimer leurs besoins,
il y a de tout,
mais c'est vrai que dans la plupart des cas, c'était plutôt des pensées collectives. Ça, on était quand même impressionnés parce que ici à Floref, on pense assez collectivement.
C'est bien.
Oui.
Oui, c'est une bonne chose, ça.
Oui, oui.
Et est-ce que votre mission, entre guillemets, a une durée dans le temps ? Est-ce que vous avez... parce que là, vous dites que ça fait un an et demi, deux ans. Est-ce qu'il y a un temps de fin ? Où là, on se dit, voilà, maintenant, c'est bon. On doit finir à ce moment-là ou...
Donc, on est dans une échéance comme relativement longue parce qu'on va élaborer un programme ici sur deux, trois années. Donc, on va prendre le temps vraiment de mûrir les choses et d'avoir des projets qui tiennent la route. Et si le programme est élaboré, est validé, etc., on est parti pour 10 ans. Donc c'est quand même relativement long. Et sur 10 ans, ben, on aura peut-être 40, 50 projets peut-être qu'on voudrait mettre en œuvre. Après, tout n'est pas possible. Et au cours du temps, ben, y a peut-être des choses qui vont tomber parce que c'est plus pertinent ou parce qu'on ne va simplement pas arriver à les faire. Mais c'est assez long, en tout cas.
Mais justement, ce n'est pas juste vous qui mettez en œuvre ces projets. Vous parliez de cette commission locale de développement rural dont fait partie des habitants. Finalement, ça se passe comment ? Comment ça s'est créé, cette commission ?
Donc, la commission, elle est formée d'habitants et d'élus. C'est un lieu où, justement, les élus et les habitants peuvent discuter, peuvent construire ensemble des projets.
Ce qui est pas mal, parce que souvent, on a l'impression que les élus veulent, le peuple n'en veut pas.
En tout cas, dans ce cas-ci...
C'est un point d'intersection, pardon. Voilà. C'est ça qui est important.
Avec des profils très différents, il y a des habitants de tous les horizons. Et donc, ces habitants, souvent, ont posé leur candidature suite, justement, aux consultations qu'on avait faites il y a quelques temps. Et voilà, donc cette commission s'est mise en place ici début de l'année 2013 et donc commence à réfléchir de manière concrète aux différents projets qu'on peut mettre en place dans les 10 prochaines années. Quoi. Donc c'est une réunion tous les mois.
Une réunion environ. Par mois environ. Maintenant, il y a des moments où on a des plus petits groupes quand on va réfléchir sur des plus petits thèmes, enfin des thèmes plus particuliers, parce que c'est vrai qu'être autour de la table, enfin Marie ne l'a pas dit, mais on est une quarantaine. Réfléchir à 40, ce n'est pas toujours évident. Donc vraiment, si on va réfléchir sur un thème plus spécifique, ben, on va convier les gens vraiment intéressés. Donc là, on sera 10, 15, peut-être 20, parce que ça s'y prête mieux. Et on essaie aussi de varier un petit peu les formes de réunion, pas juste être dans un truc où on présente et où finalement, c'est un peu endormant. On essaie d'être aussi dans des choses plus dynamiques, en sous-groupe, où on s'échange, où on peut vraiment débattre. C'est ça vraiment l'objectif de cette commission.
Il y a un accompagnement.
Voilà, ça c'est notre job, c'est l'accompagnement.
Parce que l'autre jour, quand on était à Floref et qu'on est allé, que les enfants ont interviewé André Le Cire, voilà, tu nous as accompagnés, tu étais avec nous et tu parlais de ça, non, qu'en fait c'était ton job aussi, mais d'aller sur le terrain tout voilà. simplement.
Ben, on essaye vraiment d'être. Donc nous, on est vraiment extérieur à la commune. Tous les deux, on n'habite pas à Floref, mais on essaye aussi d'être au plus proche par rapport à la vie des Floréfois, de voir de ce que Floref a dans le ventre, ce qui s'y passe, et de bien comprendre aussi un peu les enjeux locaux pour ne pas juste venir une fois par mois avec une présentation toute faite sur notre ordinateur en disant voici, tchac, 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 tchac. Vraiment d'essayer d'être là et de pouvoir un peu participer à la vie locale pour aussi bien injecter les bons éléments au bon moment.
Et pour bien connaître le territoire.
Oui.
C'est pas justement un handicap de ne pas être de la région ?
Ça nous permet d'avoir, je pense, une vue plus ensemble et plus générale.
Et avec un recul peut-être
avec
aussi.
Avec une certaine forme de recul, oui.
Mais donc, du coup, il y a quand même toute une période où vous devez... apprivoiser entre guillemets la
sûr.
Commune, les
c'est
habitants.
Pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est petit à petit et puis c'est avec beaucoup de plaisir en général parce que les habitants sont très accueillants. Nous, on se sent vite chez nous. On n'est pas chez nous, mais on se sent vite chez nous. Et donc, c'est assez facile finalement.
Oui, et puis on travaille en étroite collaboration avec la commune et donc eux, ils connaissent quand même bien leur territoire. Oui, oui. Ici, le bourgmestre, il est là depuis un certain temps, donc il connaît beaucoup de monde.
Et donc vous jouez un peu un rôle d'intermédiaire finalement et vous avez déjà dû rendre des rapports par exemple sur des événements qui ont eu lieu ou je ne sais pas comment ça se passe a posteriori après un projet, enfin, ou je ne sais pas s'il y a déjà eu un projet qui a eu une fin ou est-ce que tout est encore sur l'envol, je ne sais pas.
Ici, tout est plutôt assez ouvert. Donc, les projets, y a des choses qui se passent. Enfin, je veux dire, si on est là ici aujourd'hui ce soir, c'est un peu dans cette optique-là aussi. Rendre des rapports... Pas vraiment, parce que la commune est partie prenante du processus. Ils sont dans la commission, le bourgmestre est le président, donc lui est assez impliqué aussi. Donc il n'y a pas vraiment de rapport en tant que tel. Maintenant, il y a un échange et on va dans la même direction, enfin, on espère.
Super.
Ben voilà, donc
ça a l'air tellement facile.
Initiatives. Oui, ça a l'air tellement facile.
Mais on prend le temps. On prend le temps,
oui,
c'est
parce
ça qui rend
important.
Les choses
faciles.
On voit, voilà, vous êtes deux personnes relativement souriantes, relativement relaxes.
Relativement, c'est...
Non, mais je veux dire, voilà, qui prend les choses très à cœur et ça fait plaisir à voir. On n'a pas l'impression d'être face à, par exemple, des politiciens qui vont vendre quelque chose en espérant avoir quelque chose en échange. Non, ici, on sent vraiment que c'est... Vous êtes passionné par ce que vous faites.
Mais si en réunion, maintenant, quelqu'un part complètement en vrille et qu'il met la réunion à mal, on saurait être ferme.
Ah oui, non, non. Bah, ça, c'est votre rôle aussi. Hein, juste voilà. Lui, bien sûr. Donc, Mais donc, quand même, Radio Roulotte, c'était. Tu nous as bien suivis depuis le début, hein, Dimitri. Et donc, on a eu une réunion avec lui. Et c'est vrai que les portes se sont facilement ouvertes aussi. Grâce à votre action, finalement.
Bah, je trouvais que c'était fort important. Enfin, ce n'est pas que moi, parce que c'est vrai que dans les consultations et dans les rencontres qu'on a eues, il y avait eu cette idée. Enfin, en tout cas, des gens ont dit, mais tiens, c'est dommage. Parfois, Esperanza, on a l'impression que c'est un peu loin. Bon, vous êtes ici un peu en lien avec le festival. Et évidemment, bah, c'est super, cette initiative d'être plus proche des fleurs et foires et d'aller à la rencontre. Et voilà, ça remplit déjà un objectif par rapport à ce qui a été mis dans les consultations. C'est super, c'est un peu notre rôle. On peut donner le petit coup de pouce. Ben, voilà, c'est parfait.
Ah bah tant mieux alors. Alors on peut peut-être, vous avez aussi un site ou quelque chose comme ça où on peut retrouver vos projets, vos initiatives, ou alors Clarita, tu avais encore quelque chose à dire?
Non, oui, pareil, là où est-ce qu'on peut vous rencontrer si
Le plus simple, c'est d'aller sur le site de la commune, fleurev.be, et alors il y a un onglet opération de développement rural, et là les actualités sont présentées, et puis il y a aussi un lien vers la page Facebook où il y a aussi un peu les photos et un peu les actualités de l'opération de développement rural.
Pour les fleurs et foies que ça intéresserait, il y a des groupes de travail de réflexion qui vont avoir lieu en octobre et novembre, ou non, septembre et octobre. Vous allez voir bientôt des affiches un peu partout. Évidemment les bienvenus, votre avis nous intéresse.
Oui. Ce sera sur la mobilité et sur tout ce qui est cadre de vie, environnement, aménagement du territoire. Et donc, on vous attend.
Justement.
Ce sera au centre sportif de Floref.
Voilà.
Marie et Dimitri, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver Sophie et Viviane qui sont pas loin, qui nous regardent et nous écoutent. Mais donc la petite pause musicale, c'est également un choix. Programmation musicale Made in Déborah.
Non, pas Made in Fédération Wallonie-Bruxelles en Creative Commons, donc totalement libre de droit. C'est Silence.
Thank you.
Voilà, donc Silent, ce qu'on s'écoutait à l'instant.
Réalité. Et c'est trouvable sur Jamendo, qui est un site de musique libre de droit.
Génial.
Sur Internet.
Muy bien. Donc on accueille au micro, il y a quelques personnes en plus qui se sont rajoutées à la table, notamment Aurore. Et puis, the last but not least, Sophie et Viviane. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Mais alors, on est en famille là.
On est en famille. Alors qui sont Sophie et Viviane?
Bonne question.
Bonne question.
C'est à nous de répondre là.
Ou pas, Aurore, elle a envie d'introduire.
Alors, Sophie, elle faisait déjà partie de Radio Esperanza depuis quelques années. Et donc, cette année, elle mène les chevaux avec son amie Viviane, qu'elle nous a présentée. Elles viennent toutes les deux de région parisienne. Elles sont amoureuses des chevaux et visiblement, ils leur rendent bien. Et donc, si on peut aujourd'hui avoir une roulotte tirée par des chevaux de trait, c'est bien parce qu'on a deux personnes qui peuvent d'abord avant mener les chevaux de trait, en l'occurrence Sophie et Viviane.
Et un projet Radio Roulotte qui, en fait, est venu d'une idée de Sophie. Alors Sophie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'où c'est sorti, comment c'est venu, t'en as rêvé un matin, tu t'es réveillée, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors déjà le fait de venir à Esperanza avec un cheval, ça date d'il y a quelques années parce que je m'étais dit si je veux venir de manière écologique à Esperanza, ça pourrait être sympa. Bon, et puis ça s'est pas fait. Et puis l'édition 2012, je n'étais pas présente à Radio Esperanza et donc quand il y a eu un débriefing de la radio, on m'a demandé alors l'année prochaine tu viens Sophie? Alors j'ai dit ben oui, mais une condition, c'est que on fasse une radio dans une roulotte tirée par des chevaux. Bon, c'était franchement une boutade, même si c'était un rêve, parce que c'est quelque chose auquel je pensais, pas forcément pour Esperanza, mais l'idée d'avoir une radio itinérante qui allait à la rencontre des gens, je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà. Et en fait, une bonne partie de l'équipe a pris ça un peu au pied de la lettre, en particulier une qui est bien gratinée dans l'équipe, c'est Aurore, qui elle a dit bah ouais c'est possible, alors voilà, donc qui ose passer les coups de fil que moi je n'ose pas passer, etc. et donc tout ça a fait qu'on a rencontré toutes les personnes qui nous ont permis en fait de que Radio Roulotte voit le jour et puisse se concrétiser.
Donc, c'est parti d'une boutade et nous y voilà.
Exactement.
Quelques mois après, parce que c'était en septembre.
Oui, c'était en septembre 2012. On a trouvé assez rapidement, en fait, moi, mon gros souci, parce que, la partie radiophonique, on est effectivement une équipe issue de Radio Esperanza. C'est la 10e édition cette année, donc... voilà, c'est une équipe qui commence à être rodée, qui fonctionne bien, tant au niveau technique qu'au niveau de l'animation. On sait faire des radios éphémères, on sait rencontrer des gens et les faire parler. Ça, c'était pas un problème. Ce qui était un petit peu un défi, c'était de ce côté itinérant, en particulier une roulotte et des chevaux. Moi qui connais bien cette partie-là, en particulier les chevaux, trouver quelqu'un qui acceptait de nous prêter des chevaux, de nous les confier, d'une part, d'autre part, de trouver la roulotte qui pourrait accueillir le studio, c'était pas évident. Et en fait, on a trouvé assez rapidement Yves Olivier, qui est donc éleveur de chevaux ardennais sur Libramont. Dans les Ardennes belges, c'est que je sais pas.
Près de chez Aurore.
Voilà, c'est ça. Qui nous a suivis dans notre projet un peu fou. Je sais pas trop s'il y croyait vraiment, mais enfin, en tout cas, il s'est dit OK. Voilà. Et puis assez rapidement, comme moi, je traîne très souvent sur Le Bon Coin, ce qui est un site d'annonce sur Internet, à force d'y passer des heures et des heures, j'ai trouvé une roulotte qui se trouvait dans les Ardennes françaises, donc pas très loin, et qui a été transformée pour accueillir Radio Roulotte.
Alors voilà, justement, en parlant de Yves Olivier, je propose qu'on s'écoute une petite capsule sonore et l'intervention de Yves Olivier.
En fait, Radio Roulotte, c'est une... On veut faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
En effet, une radio tirée par des chevaux de trait, ardennais. Alors que sont ces chevaux de trait ardennais? Yves Olivier est éleveur de chevaux. Il les élève, les débourre et les dresse. Ces chevaux sont évidemment des chevaux ardennais belges. Mais il est également meneur d'attelage, sportif et de loisirs à Recogne, dans la région de Libramont. C'est lui d'ailleurs qui va nous fournir les chevaux pour Radio Roulotte. Je vous propose de l'écouter.
Donc, oui, je suis éleveur d'ardennais depuis plusieurs générations. Et donc, on essaye de s'adapter en fonction du marché, parce que ce qui est important, c'est de maintenir la race en vie. Et donc, pour ça, on doit élever ce que les gens veulent. Et donc, il y a une vingtaine d'années, les chevaux ont, ou une trentaine d'années, les chevaux ont pris beaucoup plus de masse musculaire, parce que les chevaux étaient vendus pour la boucherie. Maintenant, on en revient un petit peu aux sources, et donc on veut des chevaux beaucoup plus polyvalents, que l'on peut monter et que l'on peut atteler. Ouais, non, le cheval de trait, c'est un cheval lourd. Donc par rapport aux autres chevaux, il fait partie des races lourdes, comme sont le Brabançon, le Cob, l'Ardennais a une histoire, et c'est cette histoire qui le fait vivre et qui le maintient en vie. Le cheval Ardennais, c'est le cheval qui a été utilisé par Napoléon, donc c'est un cheval qui a beaucoup de notoriété. Donc je pense qu'il n'y a pas un cheval qui a été aussi bien mis en valeur que le cheval de trait Ardennais. Le cheval de trait Ardennais est un cheval plus petit, plus trapu, c'est ce qu'on appelait dans le temps un carrossier. Que le cheval Brabançon est un cheval qui était utilisé au niveau de la culture. Donc c'est un cheval qui devait être beaucoup plus fort musculairement, beaucoup plus grand, pour pouvoir tirer les charrues ou tout matériel que l'on mettait derrière lui. Que le cheval de trait Ardennais était plus un carrossier, qui était un cheval qui était utilisé pour le déplacement. Donc ce qu'on appelle le Brabançon, c'est un cheval qui vient vraiment, comme le nom le dit, l'indique, il vient de la province du Brabant. Et donc ce sont des chevaux qui sont beaucoup plus gros, plus lourds. C'était des zones où on cultivait que l'Ardennais, aussi par le terroir, a été obligé de s'adapter et donc de profiter et de consommer ce qu'il avait aussi bien en été qu'en hiver. Et donc, comme ce sont des terres beaucoup moins riches, ce sont des chevaux qui ont un développement beaucoup moins important. Donc les chevaux que vous aurez, ce sont des chevaux typiquement ardennais, petits trapus, qui ont été à la base, quand on revient à 4-5 générations, qui ont sans doute été croisés avec des ardennais avec des brabançons pour avoir plus de masse musculaire. Mais maintenant, les éleveurs sélectionnent pour avoir des chevaux beaucoup plus polyvalents.
En fait, Radio Roulotte, c'est une... On veut faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
Voilà, donc Yves Olivier, que Déborah a rencontré à Libramont. Alors, Il y a Sophie, mais Sophie n'est pas venue toute seule, elle est venue avec Viviane. Bonjour Viviane.
Bonjour.
Tu t'es intégrée dans le projet Radio Roulotte et aujourd'hui ben, tu y es. Quel est ton ressenti? Comment est-ce que tu as réagi quand tu as eu la proposition de Sophie? Parlez-nous un peu de votre histoire à toutes les deux déjà. Comment est-ce que vous vous connaissez? Comment ça s'est passé? Carte blanche, allons-y, soyons fous.
Alors on s'est rencontrés parce qu'on a toutes les deux fait la même formation d'équithérapie. On est maintenant diplômés en équithérapie.
On dit hypothérapie en Belgique, mais c'est la même chose.
Voilà. Et donc dans cette formation, on avait eu un bon feeling toutes les deux. Donc on est restés en lien après la formation. Et puis moi, j'ai une passion pour l'attelage. Et que je réalise seulement maintenant, puisque voilà, 50 ans, on arrive à réaliser ses rêves. Et donc, comme Sophie cherchait du monde pour l'aider autour de la question des chevaux, de la roulotte, j'ai trouvé que réaliser mon rêve en participant au rêve des autres, c'était une jolie façon de faire.
C'est émouvant. Et donc, l'aventure, là, comment est-ce que tu l'as vécu? Ça n'a pas été toujours de tout repos. On est tombé sur des chevaux assez massifs. Les chevaux ardennais, tu connaissais cette...
Je connaissais pas les ardennais, mais je connais d'autres chevaux de trait. Je travaille régulièrement avec un boulonnais, qui est beaucoup plus impressionnant, on pourrait dire, que ces ardennais. Mais voilà, travailler régulièrement avec des chevaux, parce que là, on travaille, ce n'est pas seulement un temps de soin. C'est les mettre au travail, c'est faire une journée de travail. Et ça, c'est une façon intéressante de les rencontrer.
Parce que bah, c'est vrai que toute l'équipe, nous, on a beaucoup bossé en radio. Nous, on a entendu nos voix. Mais en fait, il y a tout le travail qui est fait derrière du voyage en roulotte qui a impliqué toute une logistique que vous avez beaucoup assumée, Sophie et Viviane. Un petit mot là-dessus.
Bah, en fait, l'idée, enfin, la roulotte, il fallait bien la mener en fait dans différents villages autour de Floreff. Donc, effectivement, on a décidé de rouler le matin et puis de pouvoir s'installer l'après-midi à accueillir les gens ensuite. Et donc, ça veut dire qu'il faut se lever tôt, aller nourrir les chevaux. On n'était pas trop de deux pour ce qu'on appelle les garnir, c'est-à-dire mettre leur harnachement, pas dans des conditions toujours évidentes. Ce matin. Au milieu de la brocante ou bien jeudi quand on a commencé à les atteler on se découvrait tous hein, et donc les chevaux c'est des êtres vivants hein, ils ont chacun leur personnalité donc il fallait un petit peu les sentir. On s'est retrouvés directement au milieu du marché de Floreff, au milieu des étals. Mais bon, c'est passé.
Alors parlons-en justement des personnalités des chevaux qui malheureusement passent pas au micro mais sont dans les enregistrements, on entend les trots. Omega et Darcy, justement on parle de personnalités. Comment est-ce que vous avez vécu votre relation avec nos deux meneurs?
Alors quand je les ai vus arriver, oula, je me suis dit bon, ils venaient de voyager, ils étaient suants, soufflants, un peu massifs, impressionnants. Donc je les ai un peu regardés comme ça en me disant bon, on va falloir qu'on fasse connaissance parce qu'en fait c'était pas les chevaux qui étaient prévus, donc un peu d'improvisation. Et puis en fait il s'est trouvé que voilà, on s'y est bien fait. Alors Darcy c'est une femelle, une jument. Alors les deux sont très très affectueux, hein, très très proches de l'homme. Darcy a même un peu tendance à nous envahir quand on la tient en main, mais très gentille et très travailleuse, hein, vraiment très travailleuse. Une fois qu'elle est une fois qu'elle est attelée, ça va tout seul. Voilà. Omega, il est plus massif. C'est ce qu'on appelle un hongre, c'est-à-dire un mâle qui est castré, parce que quand on met les chevaux au travail, les juments, elles ont leurs humeurs, mais ça va. Les talons, c'est-à-dire le cheval qui n'est pas castré, est très compliqué à travailler si on est avec d'autres chevaux. Donc là, surtout en paire, en attelage, on est obligé de. La plupart des chevaux sont castrés. Voilà. Et donc lui, il est un petit peu plus cabotin, un caractère un peu plus affirmé, mais très très sympa, très nounours.
C'est ça. Il nous a fait le fun. C'était lui qui faisait le fun.
Voilà.
justement, vous n'avez pas une ou deux anecdotes rencontrées avec les chevaux durant cette semaine?
Celle d'hier.
Les petits cabrets, les deux petits cabrets d'Oméga, assez spectaculaires dans le convoi dans le cortège de soie, parce que le cortège avait des humeurs un peu compliquées, avançait, s'arrêtait, redémarrait.
Il y a eu une contagion.
Voilà, et cette ambiance un petit peu particulière a fini par rejaillir sur Oméga, qui à un moment nous a fait un peu de spectacle.
C'est cabré deux fois, j'ai même pas eu peur d'abord.
Nous non plus.
Nous non plus.
On a géré à mort.
Exactement.
Donc merci Viviane et Sophie. Vous restez au micro, il y a d'autres gens qui vont arriver autour de la table et qui sont déjà en fait autour de la table puisque c'est la dernière émission de Radio Roulotte. Donc on a avec nous René Georges qui veut pas parler mais il va parler quand même. On a Frédé qui est juste à côté de moi et Déborah pareil, voilà.
Parce que quand même Radio Roulotte s'intitulait Radio Roulotte sur la route d'Esperanza, ce n'est pas anodin, n'est-ce pas René Georges? D'abord présente-toi.
Je suis administrateur et président d'Esperanza, voilà. Ça jette un froid tout de suite.
Ça s'est dit, pas du tout.
Mais bon, président d'Espéranza, c'est très particulier, donc c'est entre guillemets tout ça. Mais je trouve que moi, c'est fabuleux cette aventure. Enfin, je pense que moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes heureux?
Oui.
Voilà. Bon, voilà. Un troisième cheval ici, c'est fabuleux.
C'est lui qui tractait le plus souvent.
C'est pas le moment de préciser s'il est castré ou pas castré. Hein.
On est vraiment sur la route d'Espéranza, là. Hein. je trouve que c'est une introduction fabuleuse et c'est tellement dans l'esprit d'Espéranza. Et je crois que c'est à réitérer. J'espère que vous avez l'envie et le courage pour le refaire l'année prochaine. Radio Péniche,
maintenant. On a pensé à Radio Péniche, Radio Vespa, qu'est-ce qu'il y avait encore?
Radio Tracteur.
Radio Tracteur, Radio Montgolfière.
On a plein d'idées,
ouais.
C'est mal barré.
Et puis je trouve ce qui est...
Vous avez le budget?
Voilà, ça c'est la grande question.
La question qui fâche.
La question qui tue.
Tiens, haricot.
Mais, on a déjà
magique.
Ça.
Magique.
Ouais. Mais en fait, on est fort soutenu par l'entité de Floref et c'est notre 12e édition et je trouve que ce projet permet encore de tisser des liens encore plus forts avec les gens de Floref et de l'entité. Et ça, c'est merveilleux que vous ayez cette idée de faire ça parce que les Floreffois et les gens de l'entité aiment beaucoup Esperanza et nous, on adore les gens de l'entité. Donc, je trouve que c'est merveilleux que ce projet ait pu naître et que ça se soit super bien passé malgré les orages qui menaçaient, qui étaient assez impressionnants. Hein. Voilà, je suis plutôt très fier de votre projet. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
Aurore.
Ouais, un projet qui n'aurait pas eu lieu sans non plus le soutien d'Esperanza et de Jean-Yves, notamment dès le départ, puisqu'il a suffi d'un petit appel téléphonique où on lui a dit on ferait bien une roulotte pour des Floreffois. Et la première chose qu'il nous a dite, c'est oui, mais quand même, je vous en veux, cette idée, j'aurais bien voulu l'avoir moi-même. Donc voilà, quand la réponse la plus négative que dire ça, c'est celle-là, tu te dis qu'on est bien parti. Et c'est vrai qu'après, dans l'équipe d'Esperanza, qu'on en parle à la déco ou à toi, René, en tant que président ou à tous les autres, tout de suite, il y a eu un super bon accueil. Et ça aussi, au départ, quand on n'avait ni roulotte, ni chevaux, ni rien du tout, ça nous a motivés pour continuer et trouver des solutions.
Et cette roulotte, elle sera visible, pas utilisable, elle sera visible, place des possibles, dans un coin.
Dans un coin ou pas dans un coin, elle sera dans la place au possible.
Elle sera, oui, je veux dire, elle sera un peu à l'écart, donc elle ne sera pas au milieu. Salut Alban, merci d'être venu.
Donc voilà, Radio Roulotte se termine pour cette année. On se retrouve dans une semaine sur Radio Esperanza et un grand merci à tout le monde.
Merci
et
à nous.
Même ceux qu'on n'a pas entendus, donc Alban qu'on n'a pas entendu du tout et Fred non plus.
Ouais, Alban et son antenne satellite sans qui on n'aurait rien fait du tout. Hein.
Voilà, et puis évidemment tous les gens qui nous ont accueillis.
Tous les techniciens.
Tout le monde. Hein, on applaudit. Voilà.
En fait, Radio Roulotte, c'est une... on veut faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
Radio Roulotte, un projet soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, retransmis sur les radios partenaires Radio Campus à Bruxelles, Radio Panique à Bruxelles, 48 FM à Liège, Run à Namur, UFM à Mons.